What do you want?
Information.
Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I gonna say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 14 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
Next one!
That's the last one!
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés cette semaine, Charlotte Blum de Ciné-Série et Compagnie sur OCS. Salut Charlotte.
Salut.
Anne Eligon des Fiches du Cinéma. Bonjour Anne.
Bonjour Pierre.
Et Cédric Melon de Télécapsat Hebdo. Hello Cédric.
Hello, hello.
Au menu, une question brûlante, complexe et sans doute polémique, celle de la place que prennent les grands noms de la réalisation cinématographique dans les séries, surtout américaines, mais pas que. L'impact de leur mise en scène et leurs décisions de producteurs, l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur série à eux, et les séries en général, faut-il se réjouir et ou s'inquiéter de voir des noms comme Scorsese, Allen, Van Sant et consorts faire des séries? On en parle tout de suite.
They're very nice people, Sidney Kay.
Sid, he's an ostrich. Lives his life with his head in the sand.
Ah! Oh, God!
Don't you think America has somehow lost its way?
Yes, maybe.
Where's Lenny?
Is something illegal going on here?
Oh, look, girls! Real Black Panthers!
Man, what do we get into?
Look what's happening on the streets! Got a revolution!
All she does is criticize me, and she eats my navel oranges.
I don't dislike you. It's just everything that you stand for.
I would admit it's been exciting.
I'm gonna burn my bra.
I could bring some snacks.
God's gonna punish us for this.
God's not gonna punish you. You're an atheist.
But if I'm wrong, we're in big trouble.
Une bande-annonce de Crisis in Six Scenes, la série de Woody Allen pour Amazon qui vient d'arriver sur la version française de la plateforme de SVOD. C'est ce qu'on appelle notre accroche, notre lien avec l'actualité pour ce débat. Donc parlons-en un instant. Je me permets de servir sur la ligne, ou plutôt directement dans les parties sensibles de Woody. C'est ce qu'on appelle un gros raté quand même, chers amis. Vous êtes pas d'accord? Anne?
Bah, c'est, en plus, c'est la chronique d'un ratage annoncé. C'est-à-dire que dès la phase d'écriture, Woody Allen s'est répandu dans la presse pour dire qu'allais-je faire dans cette galère, qu'il savait pas comment, par où commencer, qu'il pataugeait. Bon. Et ben, le résultat, c'est qu'il, oui, il s'est pris une petite claque quand même, je crois. Donc déjà ça commence comme ça, et avant même on voit la série, on nous dit ah bah c'est loupé, et en plus il la commence en s'excusant, c'est-à-dire que la première scène, il s'excuse clairement de ce qu'il va faire.
Charlotte.
C'est marrant que tu dises il s'excuse, parce que moi je trouve qu'il se fout vraiment de notre gueule. Je trouve qu'il est vraiment en train de nous dire bon, votre truc de série là, moi j'ai besoin d'argent, donc je vous le fais, j'ai fait n'importe quoi, j'en suis conscient, et puis c'est pas mon problème, vous avez qu'à pas la regarder, vraiment quoi.
Et Cédric, qu'est-ce qu'on... Tiens, l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas, j'ai mis avec des majuscules sur ma feuille, faire quand on fait une série télé, qu'on vient du cinéma, enfin, qu'en gros, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, quoi.
Oui, mais je sais pas où t'allais chercher. Enfin, il y avait vraiment que cet exemple-là, parce que, à mon sens, il y a tellement de réalisateurs de cinéma qui ont réussi leur passage.
Ah, on va en parler, évidemment.
En série, mais je trouve que c'est dommage de commencer juste par
c'est l'actualité.
Le mec karaté, quoi.
Eh ben, justement, ça nous permettra de faire en creux derrière.
Ouais. Mais enfin, bon, c'est raté.
C'est tout?
Ouais, non, mais je pense qu'il y a rien à dire. Lui-même l'a avoué, lui-même l'a argumenté, et je trouve qu'il se fout de la gueule du monde, parce que c'est quand même d'une mauvaise foi absolument éhontée de manquer de respect à ce point-là aux gens qui ont espéré, qui ont voulu, qui se sont dit tiens, qu'est-ce que ça va donner Woody Allen en série, et pour le coup, bah, ça donne rien.
Genre, c'est parti, hein.
Ouais, mais en même temps, ça fait 20 ans qu'il fait des mauvais films, donc.
C'est pas surprenant qu'il fasse une mauvaise série.
Il y a peut-être un peu de ça. Enfin, en même temps, il n'y a pas tout à fait rien à en dire. Il y a quelques petits moments à sauver. Mais c'est effectivement, enfin, moi, je trouve que c'est de la paresse. C'est-à-dire que ça aurait pu être une très bonne sitcom. Dans le bon sens du terme.
En plus, ça aurait été un moyen pour lui de se renouveler, de revenir peut-être à ces films géniaux qu'il a fait, comme Annie Hall, Prends les Aïe, Tire-toi, Manhattan et tout.
Qu'on sent un peu.
C'est là, mais on sent qu'il n'a pas bossé, quoi.
Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut reprocher à Woody Allen d'avoir fait un long film découpé en épisodes, c'est-à-dire d'avoir oublié comment ça marche une série? En même temps, il y a pas mal de producteurs aujourd'hui qui font ça, c'est-à-dire qui font un long film, qui le découpent en épisodes. Parce que c'est un des reproches qu'on peut faire à Crisis in 16, c'est de pas vraiment avoir de structure sérielle.
Moi, c'est moi, pour le coup, qui vais me faire l'avocate du diable. Je pense que c'est vraiment un vieux débat et un vieux problème que de se dire, est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est un film coupé en tranches? Enfin, si demain, Nick Pizzolatto nous dit, j'ai fait un film coupé en tranches de True Detective, on dira, OK. En fait, j'ai l'impression qu'on commence vraiment à choisir chez qui ça nous énerve et chez qui on s'en fout quand on nous parle. Une série, ça reste une histoire racontée en épisode. Et si tu veux que ton film soit une histoire coupée en morceaux, OK. Le problème, en fait, c'est pas que sa série, c'est un film coupé en morceaux. Le problème, c'est que sa série est nulle. C'est un autre problème.
Et je te rejoins, je complète exactement ce que tu viens de dire en disant que il se trouve que les séries qu'on préfère, enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, c'est celles qui racontent une histoire et qui n'ont pas l'air d'être découpées en morceaux, quel que soit le nombre d'épisodes. C'est la ligne narrative principale qui va m'amener d'un endroit A à un endroit B et avec des rebondissements et des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément une structure sérielle qui fait qu'une série est ratée ou parce qu'un cinéaste est arrivé dessus.
Oui, alors quand Woody Allen dit, il a dit, hein, j'ai aucune idée de ce que je fais, tu le disais, Anne, c'est ça pourrait ne pas être une si mauvaise nouvelle que ça, puisque en fait finalement on est assez preneur aujourd'hui de séries qui oublient des codes, qui sortent des codes, qui réinventent des façons de raconter des histoires, qui changent de format. On parlait la semaine dernière de Sherlock, de ces séries qui finalement sont hors du cadre. Donc pourquoi pas les gens qui viennent de l'extérieur, y compris les réalisateurs de cinéma, évidemment on va en venir, c'est le sujet de cette discussion, pourraient apporter. Woody Allen l'a dit avec un peu de cynisme, mais on dit bah je sais pas ce que je fais, du coup je vais faire quelque chose et si ça se trouve ça pourrait être brillant. Non ?
Bah, enfin, là, il n'invente rien, hein, vraiment rien. C'est-à-dire que, moi, le générique de début, j'ai cru qu'il y avait un bug et que c'était le générique de fin. Alors, on n'est pas du tout dans les codes sériels, mais bon. Donc, en fait, ce générique et ce noir, c'est un fondu au noir de cinéma qui découpe, une sorte de. Je sais pas, même pas un film, enfin.
Ils ont pas acheté un savoir-faire.
Exactement, oui, là, c'est en l'occurrence.
Alors, en parlant de savoir-faire, et avant de rentrer dans le débat, ça sera d'ailleurs la question qui va nous permettre vraiment de rentrer dedans. Est-ce qu'il faudrait que les gens qui viennent du cinéma et qui n'ont jamais fait de série soient accompagnés? On en parlera parce que ça a souvent été le cas de quelqu'un qui est vraiment une personne de télévision, pour dire les choses simplement. Ça te fait marrer, Cédric? Non,
parce
oui,
que c'est
non.
Pas, ben non, parce que c'est pas des malades. Enfin, à un moment donné, je pense que quelqu'un qui sait faire un film de cinéma est tout à fait capable de faire une série s'il est bien entouré.
C'est ce que je viens de te dire.
Oui, mais accompagné, entouré, donc. Mais s'il est bien entouré avec un bon chef opérateur, avec un bon scénariste, avec de bons comédiens, mais pas.
Ça peut être que des gens qui n'ont jamais touché aux séries et ils
non,
vont.
Non, je dis pas simplement ça. Je dis que quelqu'un. Et il y a plein d'exemples, on va en parler tout à l'heure, de cinéastes qui n'étaient pas entourés, qui n'étaient pas accompagnés, qui n'étaient pas sous respirateur de quelqu'un qui a déjà fait des séries et qui ont fait d'excellentes séries qu'on adore tous.
Ouais, après, souvent, enfin, c'est une grande majorité du temps, quand les cinéastes viennent faire de la série, soi-disant, ils font un pilote. Et ils sont gérés par des showrunners, par des scénaristes qui sont des gens de la télé et qui savent. Je pense que le problème, c'est pas de les entourer. Le problème, c'est à qui tu donnes la parole. Évidemment, quand t'as Scorsese qui arrive sur une série, on va pas lui dire tu te tais et tu écoutes ce que dit Terrence Winter.
Écoute, Martine. Hein.
Voilà, on lui déroule un tapis rouge. Ils sont toujours entourés de gens de télé, ces gens-là.
Tu touches une définition même, c'est-à-dire du principe qui est au cinéma, c'est le réalisateur qui est le patron. Dans une série, c'est le créateur, le plus souvent, le scénariste, et c'est lui qui est le patron. On peut avoir des showrunners qui ne réalisent jamais d'épisodes. Donc, c'est ça la différence. Après, c'est est-ce qu'un réalisateur de cinéma qui n'est pas connu peut faire une série? Je te réponds oui. Est-ce qu'un réalisateur qui est très connu peut faire une série? Ça dépend. Parce que là, c'est juste une question d'ego. Ouais. C'est juste une. Et ça n'a rien à voir avec la capacité ou pas de faire une série, à mon sens.
Anne?
Oui, c'est vrai que c'est une histoire d'ego et que, enfin, quand même, chez certains cinéastes, moi, j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance des séries. Et il y a un côté un peu qui peut le plus, peut le moins. Donc, voilà. Et enfin, c'est ceux-là qui se plantent en général. Hein, et quand on vient aux séries en se disant que le grand écran, c'est mieux que le petit et qu'une série, c'est un ersatz de film, là, on n'est pas, à mon avis, sur la bonne voie.
Alors, on va essayer de parler, évidemment, essentiellement de ceux qui ont abordé les séries avec ambition et non pas avec ce mépris là. En attendant, Jules, fais-nous péter un peu le saxo, s'il te plaît.
Holy smokes, who is that?
Shelley Johnson. Shelley Johnson! What a beauty! Kind of reminds me of that statue, the babe without the arms.
Venus de Milo.
The name was Milo, but that's beside the point. That's the kind of girl to make you wish you spoke a little French. Excuse me, Coop, while I try my hand at a little counter Esperanto.
Good luck, Gordon.
Ah, ce cher David Lynch, alias Gordon Cole, dans sa série Twin Peaks, ancêtre des grands réalisateurs de cinéma passés à la télévision. On peut aussi penser à Michael Mann. Et à qui d'autre d'ailleurs? Faisons un peu d'histoire, les amis, parce qu'on s'agite beaucoup sur cette question depuis quelques années. Mais ça ne date pas d'hier, quand même, cet arrivage de grands réalisateurs de cinéma. Est-ce que, en prenant, Lynch comme point de départ, j'ai à peu près bon, ou il faut remonter
non,
plus?
On peut remonter bien plus loin, parce que Sam Peckinpah a lui-même réalisé des épisodes de séries. C'est quand même le réalisateur de Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, de La Horde sauvage, de Chien de paille, donc de plein de chefs-d'œuvre. C'est à un moment donné, ils sont arrivés. Pourquoi ils sont arrivés sur des séries? Parce que pour Michael Mann, pour le coup, quand il est arrivé sur Miami Vice, si je dis pas de bêtises, il venait faire un four nucléaire avec son film La Forteresse Noire, et il avait besoin d'argent. Donc, après, qu'ils soient arrivés pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, Sam Peckinpah, c'était la même chose. Il y a plein de réalisateurs de cinéma au moment de la grève de 2008. Des scénaristes qui sont venus aux séries parce que les scénaristes foutaient le camp, ils n'avaient plus assez de scénaristes pour faire un certain nombre de choses, et il se trouve aussi que le cinéma a changé, c'est-à-dire que le cinéma ne permettait pas de grands réalisateurs de dire et de faire et de réaliser les films qu'ils voulaient, parce qu'il n'y avait pas de cul, parce qu'il n'y avait pas de violence, parce qu'ils étaient complètement sclérosés, parce que le cinéma s'adresse de plus en plus, à cette époque-là et encore aujourd'hui, à des gens qui ont 16 ans, à des teenagers, donc on fait d'énormes blockbusters, il n'y a plus de place, sauf dans les films très indépendants, pour faire un petit peu autre chose.
Alors ça, c'est aujourd'hui, mais pour toi, c'était déjà à quand? Parce que ça, ce que tu dis aujourd'hui, ça s'applique exactement à une problématique actuelle. Mais pas
ça,
forcément
c'est depuis 2008. Pour moi, la rupture avec ça, c'est depuis la grève des scénaristes.
Oui, mais les Hitchcock et tous ces gens-là, pourquoi ils sont allés faire de la télévision?
C'est-à-dire que, au départ, c'est surtout la télévision qui singeait le cinéma, hein. C'est-à-dire que Hitchcock présente, c'est, des histoires qu'il a réalisées et avec des réalisateurs qui avaient déjà un peu commencé au cinéma. Donc il y a quand même une grande période où la télévision se contente de singer le cinéma. Aujourd'hui, effectivement, on n'en est plus là, heureusement.
Alors, on a parlé du contexte historique et de, effectivement, Cédric, tu le disais très bien, cette baisse qualitative ou cette baisse de liberté que peut avoir le cinéma américain et du coup qui a aspiré. Mais est-ce qu'il y a aussi eu des modèles, des gens? Alors évidemment, moi j'insiste, hein, je pense que Twin Peaks a joué son rôle là-dedans. Mais alors après, dans cette période plus récente, qui serait un peu le précurseur? On va évidemment parler beaucoup de Scorsese. Est-ce que Bordeaux, le Campire, par exemple, a été une date clé, ou est-ce qu'il y a autre chose avant? En gros, qui a ouvert les vannes pour qu'après les grands noms, parce que c'est un petit peu, je veux faire comme mon copain, non? C'est un peu.
Je vais être assez polémique. Je pense que c'est Michael Mann. Moi, je pense que c'est Miami Vice qui a vraiment lancé le truc.
Mais il n'y a pas eu grand chose dans les années 90 après.
Non.
Après Twin Peaks, il y a un gouffre quand même en la matière.
Oui, je pense que quand Michael Mann fait Miami Vice, il apporte vraiment quelque chose. Il apporte déjà sa signature visuelle, narrative et musicale. On se souvient quand même tous de plein de morceaux musicaux dans Miami Vice. Et quand lui n'y a plus été, c'est-à-dire quand il n'y a plus été producteur, même si c'était pas showrunner sur la saison, je crois que c'est à partir de la saison 4 ou 5, si je dis pas de bêtises, lui, Don Johnson l'appelait en lui disant, faut qu'on arrête la série.
Don Johnson, l'acteur
principal. Un des acteurs principaux de Miami Vice. Mais après, c'est revenu de façon linéaire. Quand Gus Van Sant fait Boss, moi, je suis scotché.
Et ça tombe de nulle part, par ailleurs.
Et ça tombe de nulle part. Et pour moi, il a fait une série remarquable avec Boss. Franchement, ça faisait longtemps que j'ai
pas vu. Citons celui qui a fait la série remarquable, qui s'appelle Farhad Safin, enfin, qui est le créateur et le scénariste.
Oui,
Van Sant, on le disait tout à l'heure, tiens, d'ailleurs, parlons-en. Il est venu faire le pilote, et puis il y a Ciao, bonsoir.
Oui, mais alors attention, parce qu'il y a deux façons de faire à Ciao, bonsoir. Excusez-moi, je me police pas après, je me tais. Il y a J.J. Abrams, qui est lui un vrai enfoiré, parce que lui, il fait le double épisode de Lost, et il se barre, il fait démerdez-vous avec ce que je viens de vous installer, parce que moi-même, je ne sais pas où je vais. Il a fait la même chose pour le dernier épisode de Star Wars, et il flingue la moitié des gens, et il fait, maintenant, démerdez-vous avec les fans, et après, on verra. Je suis très curieux de voir le prochain épisode. Et il y a Gus Van Sant qui impose une signature, qui vraiment donne le ton. Et après, le showrunner de la série a su s'entourer des bonnes personnes pour continuer ça. Ce qui n'est pas arrivé, par exemple, sur Vinyl avec Scorsese, qui lui aussi.
Ah, qui a fait une JJ, là, sur ce coup-là. Il a fait un pilote qui défonce tout ce qui bouge. Et alors derrière, comment tu te relèves, quoi?
Je pense qu'il s'est dit dans sa tête, moi, je m'en fous, je vais faire un long métrage de deux heures, je vais faire exactement ce que je veux
faire.
Et derrière, je m'en moque. Mais éperdument.
Ouais.
Par contre, l'exemple type du mec venu du cinéma qui a fait une excellente série de A à Z, c'est Fukunaga,
Fukunaga,
Fukunaga, pardon, qui a fait la première saison de True Detective. perspective. La preuve en est qu'avec le même auteur, la saison 2, avec des réalisateurs différents, on n'a pas le même résultat.
Oui, et alors, puis, enfin, il y a plein d'autres problèmes avec la saison 2 de Trou Détective, mais on va pas s'acharner, enfin, ça fait déjà quelques temps qu'on s'acharne dessus.
Ça me permettrait de
parler de Steven Soderbergh et de The Nick, quand même.
Qui, pour moi, est le Lynch d'aujourd'hui.
Parce qu'il a tout réalisé lui-même.
En tout cas, au début de Twin Peaks, où Lynch était vraiment son enfant, ne regarde pas comme ça. C'était vraiment son enfant Twin Peaks. Soderbergh, pour moi aujourd'hui, c'est le réel qui respecte le mieux la télé au sens premier du respect. C'est quelqu'un qui a pris son truc en main, qui cadre, qui réalise, qui monte et qui aime. Pour moi, qui aime ce qu'il fait. C'est le seul.
Anne.
Alors oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il a l'honnêteté de réaliser, de faire le job. Ok. Après, moi, je suis pas. Emballé par le résultat parce
mais
que.
Mais j'aime pas The Nick.
Hein. Bah voilà.
Moi j'aime bien.
Alors voilà. J'aime la télé en fait. Après, voilà. Je trouve que c'est une série chiante. Mais
oui
bon.
Bah voilà, mais parce que il y a ce côté un peu esthétisant qui cache pas complètement les faiblesses du scénario. Quoi.
Alors donc, question importante et très large. Qu'est-ce que ces réalisateurs apportent? C'est-à-dire est-ce que outre bah je sais pas hein, de l'argent j'imagine et une visibilité comme c'est souvent le cas avec des grands noms, est-ce qu'il y a je sais pas un sens du cadrage, quelque chose d'esthétique? Non mais attention Cédric, je ne fais que poser des questions. Je sens que
bouger.
Je vais m'écarter parce qu'il va m'arriver une violence tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un plus chez ces réalisateurs-là que des gens qui seraient des réalisateurs de télévision? Je pense que ce mot ne veut plus rien dire. Mais partons de ce constat-là, est-ce que ça apporte quelque chose vraiment esthétiquement, narrativement, quand un grand nom du cinéma vient faire une série, ou est-ce que c'est juste du pétage, juste pour faire de la pub et avancer des grands noms?
Pour moi, les seuls cinéastes qui ont aidé la télévision à évoluer ou qui ont formé les réalisateurs, c'est les cinéastes des films qu'ils regardaient enfants et avec lesquels ces réalisateurs-là ont appris à aimer le cinéma et à faire de l'image.
Les gens qui ont fait les séries elles-mêmes,
non, absolument
ceux
pas.
Qui ont influencé ceux qui font les séries.
C'est leurs icônes. À part Cary Fukunaga, effectivement, sur Trou Détective, où il nous a fait un chef-d'œuvre sorti de nulle part. Et c'était
un bon nom du cinéma
indépendant. Il s'est mis au service de.
C'est parce que c'est un exemple. Si on parle de Trou Détective, je suis sûr que si on demande à 50 personnes qu'est-ce qu'ils retiennent de Trou Détective et qui ont aimé, ils vont te répondre que c'est le plan séquence de l'épisode 5, je crois,
4.
À la 4, parce qu'à un moment donné, c'est cadré du feu de Dieu, c'est super bien
dirigé.
Oui,
mais c'est pas, est-ce qu'un grand nom du cinéma est venu
on te parle pas
d'un
nom, pardon, on te dit pas un nom du cinéma, on te dit juste un réalisateur de cinéma. Je pense que le premier épisode de Boss réalisé par Gus Van Sant, si c'est pas lui, c'est pas le même résultat. Il y a un sens de l'esthétique, il y a un sens du cadre.
Oui, c'est un autre résultat, mais c'est pas un résultat moins bon forcément.
Ben,
c'est pas
parce que. Ça ne sera jamais.
Non, mais c'est un autre résultat. Ils sont pas meilleurs. Regarde les réalisateurs d'aujourd'hui, les Alan Taylor, les Tim Van Patten, etc. Ils ont pas besoin qu'on vienne leur apprendre. Ils ont pas besoin qu'un cinéaste vienne leur apprendre leur métier.
C'est pas du tout ce que j'ai
dit. Je dis pas que c'est ce que t'as dit. Je te dis juste que je ne pense pas, pour répondre à la question de Pierre, que.
Moi, je pense que c'est une valeur ajoutée.
Une fois qu'ils sont passés, tout va mieux et c'est mieux.
Alors ça sert à quoi? Encore une fois, je repose la question. Cédric, t'avais l'air d'avoir une réponse plus ferme.
Oui, mais pour moi, ça donne le là. C'est-à-dire qu'après, c'est le chef d'orchestre. En tout cas,
le chef d'orchestre qui lève la baguette et qui se barre derrière. Mais
non,
le chef d'orchestre,
non, mais à un moment donné, il donne une impulsion, il donne une couleur, pardon, mais une couleur dramatique, c'est hyper important. La couleur dramatique de Boss, pardon, mais au premier épisode et au dernier, c'est la même, et c'est pas lui qui a réalisé.
Mais ça, c'est ce que fait n'importe quel réalisateur de pilote.
Tant mieux, mais moi, je trouve ça mieux que d'autres. Mais c'est juste mon avis personnel. C'est que je trouve que c'est la valeur ajoutée. C'est je sais que c'est du Gus Van Sant.
Oui, mais est-ce que tu
quand Michael Mann fait des épisodes de Michael Mann, je sais que c'est lui. Et dans d'autres proportions, quand Quentin Tarantino va faire un épisode d'urgence, je sais que
c'est Tarantino.
Et il y a plein d'exemples comme ça. Ils amènent leur signature.
Oui, mais attention, c'est différent.
Quand il fait le double épisode des experts deux derniers épisodes de la saison 5, je sais que c'est lui.
Oui, mais là, c'est des cas isolés, c'est un one-shot comme ça. Moi, ce qui peut me poser un problème, c'est quand un grand nom vient faire un pilote et que derrière, les autres vont le singer. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, ça a été assez ferme sur House of Cards, les épisodes suivants, alors qu'ils étaient quand même bien mis en scène, on sentait que les mecs faisaient du Fincher, mais c'était pas Fincher. Bah, donc, c'était pas aussi réussi.
C'est un risque pour la série, mais ce qui prouve bien que quand il y a un réalisateur de cinéma qui a du talent et qui impose sa signature visuelle, quand c'est lui qui réalise, c'est mieux que quand c'est d'autres qui réalisent les épisodes d'après.
Il a plus d'argent et il a plus de liberté et il vide les caisses et après les réals des 10 épisodes. Non, mais c'est ce qu'a fait Scorsese sur Vinyl, il a vidé les caisses.
Cédric, Anne.
Pour moi, il y a moins de soucis avec Fincher quand même parce que la suite, en tout cas sur la première saison, Il y a un vrai accompagnement après les
oui, les producteurs. Enfin, il reste dire souvent producteur, c'est pas trop ce que ça veut dire. Hein,
voilà, mais bon, il est quand même là et c'est je trouve pas qu'on ait l'impression de sous Fincher. Après, c'est la série qui a des soucis à partir de la deuxième saison. Moi, ça me pose moins de problèmes qu'effectivement le gars, comme tu dis, qui vient vider la caisse et qui dit maintenant salut. Oui, mais enfin, c'est malhonnête. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un autre problème, c'est que on parle de Woody Allen et Woody Allen, en gros, on lui a fait carte blanche, hein, ça a été super, t'es Woody Allen, tu fais ce que tu veux, on te file une saison entière. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, aussi bien du point de vue des réalisateurs que des producteurs, puisque ces gens-là restent producteurs, qu'il y ait plein de petits jeunes qui n'en veulent et qui se fassent bouffer leur place par des grands noms du cinéma qui s'emmerdent à Hollywood et qui veulent aller faire des séries. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, hein, c'est ma position ici, et qui du coup, bah, ont moins de place. Alors pour le coup, n'était pas un grand nom, mais il a aidé sans doute Pizzolatto à pousser la porte. Mais c'est pas un risque finalement que ces gens qui sont curieux d'aller faire de la télé prennent la place de gens qui n'ont que ça en tête et qui sont vraiment obsédés par l'idée de lancer leur propre série.
Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que je pense que c'est au cas par cas. Qu'il y a des exceptions, on va trouver des exemples pour et des exemples contre. C'est tellement difficile que ce soit de faire une série ou de faire du cinéma. Ne serait-ce que pour donner un exemple, Vince Gilligan, il a été refusé 23 fois.
Le créateur de Breaking Bad.
Il a été refusé 23 fois avant que son pilote soit pris. Donc, je pense pas que ce soit plus facile. Le problème, c'est l'honnêteté de la personne qui va le faire. Et là, je vous rejoins. Mais je pense que quand la personne est honnête, c'est une valeur ajoutée. J'en suis persuadé. Mais pas pour les séries en général. Si on aime Gus Van Sant et qu'on va voir sa série, on est content.
Charlotte.
Mais après, moi, pour répondre à ta question de la crainte de la place qui est laissée à l'un à l'autre, les réalisateurs de cinéma sont beaucoup trop chers pour que ça devienne une habitude. Quand Netflix fait le chèque du siècle à Baz Luhrmann, après, il va faire des petits machins, des Love et des je sais pas quoi, des séries fauchées.
The Get Down, oui.
Oui, parce que c'est des gens qui sont... C'est forcément un truc... événementiel. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est Boardwalk Empire qui a ouvert les vannes? Je pense que malheureusement, c'est Boardwalk Empire qui a ouvert les vannes avec un réal trop gros et qui impose un trop grand respect. Et HBO a donné un mauvais exemple. Ils ont donné un exemple de ça y est, les dieux du cinéma viennent à la télé. Non! Ça y est, il y a un mec que l'histoire intéresse, il est venu se faire plaisir. Et on est parti de ça. Enfin, je sais pas si tu te souviens à l'époque où le pilote a été diffusé, mais on avait l'impression que carrément une église se construisait autour de la série, mais on n'a pas besoin de Martin Scorsese pour faire des séries.
Oui, enfin d'ailleurs tout le monde disait la série de Martin Scorsese, c'était pas la série de Martin Scorsese, c'est la série de Terrence Winter.
Oui, mais en même temps, je pense que c'est pas le propos. De la même façon, Netflix, c'est en prenant Florent en milieu série et en faisant Marseille, je pense qu'il...
On a passé le point Marseille d'un coup.
Mais
Florent en milieu série, c'est le Martin Scorsese français, oui, c'est voilà, ça qui sous-entend.
Non, c'est pas. Oh, loin de là. Mon Dieu, le pauvre, si tu dis à Scorsese, Florent. Il a passé dans la même phrase, c'est un gros problème.
Et Florent Cyr, il a passé son temps pendant toute la promo de Marseille à dire je veux amener du cinéma à la télévision. Oui, et donc on voit le résultat.
C'est un exemple parfait. C'est-à-dire et que. Ben voilà. Mais sauf que c'est le talent s'achète pas.
Vous en avez.
En série ou au cinéma. Hein.
Vous en avez du talent, chers amis, puisque vous avez commencé à répondre à ma dernière question. Quid de la France?
Moi, j'ai un exemple. C'est que, pour le coup, moi, il m'a scié. C'est Éric Rochand.
Évidemment. Oui,
oui. Parce que quand il fait Les Patriotes, que je trouve un excellent film de cinéma.
Tu mettrais Éric Rochand avant la série comme déjà un grand nom du cinéma français.
Ah oui. Enfin, moi, pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs vivants. Malheureusement, il s'est planté avec Les Patriotes et sa carrière au cinéma a été foutue. Et je pense qu'il a respecté le code de la série en venant sur le Bureau des Légendes. Il a fait quelque chose qui lui ressemble, où on voit sa signature. Pas seulement
il est plus que réalisateur, attention, il est plus que ça. Hein.
Oui, non, mais justement, pas seulement parce qu'il est réalisateur, etc. Mais moi, je retrouve certaines choses qu'il a fait dans Les Patriotes, je le retrouve dans Le Bureau des Légendes avec plaisir. Et je pense que c'est quelqu'un qui respecte. Après, je te souhaite bonne chance pour trouver un réalisateur qui accepte de faire des épisodes de série qu'il n'a pas écrits, qui vont être bons et qui a déjà eu du succès au cinéma. Parce que là, il faut lancer un avis de recherche à l'ère de disparition.
On retourne au problème de culture de la France qui est un pays de réalisateurs et moins un pays de scénaristes.
Oui, bah ça.
Pardon, attends, qu'est-ce que j'ai entendu?
Ah bah culturellement, non, on met pas le réalisateur
en
avant.
Non, mais culturellement, au cinéma, en France, trouve-moi 10 réalisateurs ou même 5 réalisateurs qui font des films qu'ils n'ont pas écrits. Aujourd'hui, ça n'existe pas.
Alors, du réalisateur scénariste.
Non, oui, je croyais que tu voulais dire qu'il accepte de venir faire des séries.
Ah non, mais ça n'existe pas, parce qu'en fait, en France, on a cette culture nulle de penser qu'on n'est pas un auteur si on n'est que réalisateur.
Oui, oui, oui.
Alors qu'aux États-Unis, c'est exactement l'inverse.
C'est la culture nouvelle
vague. Catastrophe.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur Rochand, et si je peux rajouter trois cœurs devant, derrière, je le fais. parce que il a surtout compris comment on travaillait à l'américaine, hein, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de scénaristes, que on écrit, on tourne, on monte, tout ça, ça se chevauche, et que comme ça, on livre une saison par an. Après, bon, il dit lui-même qu'il commence à être un peu rincé, hein. Mais moi, voilà.
J'ai un exemple, pardon.
Le jour où Jacques Audiard vient faire une série, mais j'y vais direct.
Cédric Clapiche a fait les premiers épisodes de 10%. Voilà un exemple de quelqu'un qui n'a pas écrit la série, qui est venu tourner les premiers épisodes. Qui, oui, certainement, il a été pour quelque chose dans la dynamique de la série.
Clapiche, avec tout le respect qu'on lui doit, est un plus grand, scénariste, apporteur d'idées, vecteur d'un courant, que réalisateur.
Bah, la réelle de 10%, c'est quand même pas,
C'est rien.
C'est rien, en fait.
Oui, c'est pas grand chose, mais il y a une, il y a un bon rythme. Enfin, c'est important, ces choses-là. La direction d'acteur, par exemple. Parlons-en de la direction d'acteur. Excellent.
Après, c'est pas ça. C'est que surtout, le sujet est très parlant. Ensuite, merci le monteur pour le rythme. Effectivement, s'il y avait pas les plans qu'il faut, d'accord. Mais est-ce que quelqu'un se souvient et peut me dire c'est quoi la signature visuelle de 10%?
Allez, on s'écoute un bref extrait de Boss avant de laisser la parole au public. Moral turpitude. That's what I want to talk about. You know why? Because even though I am a bad man and have done some bad fucking things, I've always known why. And when I look into the face of another bad man, I see his deeds and I know his fucking soul. Un extrait du pilote de Boss, réalisé donc par Gus Van Sant, on en a parlé un petit peu ici. Kelsey Grammer a une scène extraordinaire. Ceux qui ne connaissent pas Boss, allez-y, hein, il y a malheureusement que deux saisons, mais très très belle série. Assez causé, allez, place au public de Un épisode et j'arrête. Vous pensez que les séries n'ont pas besoin des réels de cinéma, ou votre télé est aussi grande que l'écran du Grand Rex, et du coup, ciné et série, c'est pareil pour vous. Vous avez envie de poursuivre ce débat avec nous, la parole est à vous. Bonjour.
Bonjour. Ma question porte sur un peu le regard qu'ont le cinéma et le réalisateur sur les séries, la perception. Il m'est arrivé d'avoir des discussions avec des cinéphiles qui avaient tendance à dénigrer, voire mépriser ma passion pour les séries. Et je crois que ça a été vrai, ça, que ça a tendance à être considéré comme un art mineur un peu, que c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Maintenant, tout le monde reconnaît, le cinéma y compris, que c'est un art visuel au même titre que le 7e art. Je voudrais savoir où s'est fait un peu la bascule, où s'est fait le changement de mentalité, comment les séries ont été amenées à être perçues différemment par le cinéma.
Bah ça c'est la création de la CS hein, 2014 je crois. Plus sérieusement,
très sincèrement, je pense que ça s'est pas fait en un jour. C'est comme l'évolution des choses. C'est que c'est pas parce qu'il y a des grands noms du cinéma qui sont venus sur les séries qu'on s'est dit tiens les séries ça va être intéressant. Faut surtout pas dire ça. Je pense que simplement quand il y a eu des séries de qualité, que ça commençait à savoir qu'il y a eu une base de, les gens se sont intéressés un peu plus à ça entre guillemets les producteurs. Et les choses se sont faites petit à petit. Je pense pas qu'il y a, enfin, à mon sens, il n'y a pas de moment clé. Peut-être Twin Peaks, mais ça serait vraiment le seul truc où on se dit, tiens,
oui, aux États-Unis, en tout cas. En France, ça a pris plus de temps, hein. La bascule n'est pas complètement faite, d'ailleurs, en
non,
France.
Non, parce qu'on n'a pas fait de bonne série.
Ouais. Ouais. Comment ça en faire? Hein. Regarde tout le bien que t'as dit du Bureau des légendes.
Oui, oui. Ah, je dis bonne avec Annès à la fin.
Oui, enfin, puis c'est une histoire de moyens financiers, enfin voilà, oui, effectivement, c'est une évolution. Moi, oui. Oui, enfin, j'espère qu'en France, moi, c'est l'école Rochand là. Il faut faire de la série d'auteur, mais pas. Ça veut pas dire la même chose que le cinéma d'auteur.
Si tu savais le cahier des charges qu'il y a pour un auteur, pour quelqu'un qui veut faire une série, le cahier des charges qui est imposé par les chaînes, tu te dis que c'est un miracle absolu qu'il y ait des bonnes séries en France.
Bon, il y a quand même, en gros, une question générationnelle aussi, il faut le dire. Il y a une vieille garde, alors je ne mettrai pas de limite d'âge, hein, et il y a des contre-exemples d'ailleurs, il y a tout à fait des contre-exemples, mais qui est encore, en gros, pense que le cinéma, que les séries, c'est la petite sœur du cinéma, avec un regard un peu méprisant. Et il y a, aujourd'hui, c'est quand même très difficile de trouver quelqu'un, allez, je dirais, de moins de 40 ans, voire de moins de 50, qui dirait que les séries sont inférieures au cinéma. Je crois que aujourd'hui, ça reste malheureusement coincé pour les plus âgés. Et tu n'as pas l'air d'accord, Cédric.
Mais
malheureusement, beaucoup de ces gens-là sont encore des décideurs
et ça pose problème. C'est ça le problème. C'est quand on dit il y a un cinéma de genre, non, il y a un bon cinéma ou il y a un mauvais cinéma. Et les séries, c'est exactement la même chose. Il y a de bonnes séries ou il y a de mauvaises séries. Et les faire se bagarrer entre les deux, simplement parce qu'il y a des ponts entre les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, ça n'a pas de sens. C'est où il y a des bonnes séries, où il y a de bons films.
Charlotte, le mot de la fin, c'est pour toi.
Oui, non, c'est juste pour... Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, c'est générationnel. C'est aussi qu'il y a toute une génération de showrunners, de scénaristes, de réalisateurs qui, aujourd'hui, travaillent à la télévision américaine et qui ont grandi en regardant des films.
Et ça marche à la télé française aussi.
Et qui ont trouvé une maison à la télé, plus qu'au cinéma, où on ne leur ouvrait pas la porte, et qui ont révolutionné la télé et qui en ont fait un objet cinématographique. Pour Breaking Bad, pour Les Sopranos, pour Six Feet Under et toutes ces choses-là.
Et ça marche aussi un peu pour la télé française. Enfin voilà, je rebondis là-dessus. Moi, je parle de plus en plus souvent avec des scénaristes qui n'ont jamais été complètement dingues à l'idée de faire un film et qui tout de suite sont dit moi, ce que je veux faire, c'est une série. Évidemment, on en parle de scénaristes, mais je pense que ça sera de plus en plus le cas des réals, même si tout à fait Cédric qui soulevait un bon point tout à l'heure, ça reste encore des réals scénaristes aujourd'hui en France qui se jettent dans ce bain-là. Et c'est pas encore tout à fait le cas des réalisateurs de se dire allez hop, moi, ce que je veux faire, c'est juste les scénarios des autres, les tourner pour la télévision. C'est peut-être quelque chose qui va être amené à se développer, mais qui pas encore très fort en France. Et on terminera là-dessus ce 14e épisode de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Merci à Charlotte Blum d'OCS, Cédric Melon de Télécapsat Hebdo et Anne Ligon, les fiches du cinéma. Merci aussi à l'équipe de Binge Audio et en particulier à Jules Cros à la technique. Merci enfin au public de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous. L'Association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme Un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker, tout ce qui va avec. Dans la prochaine émission, on fait quoi ? On se penche sur la nouvelle série de Netflix, 13 Reasons Why, et on en profite pour débattre des teen dramas, des drames adolescents, d'Angela 15 ans à Les Grands, en passant par Skins. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.